cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre émission 100% locale Cultivons notre jardin. Nous faisons notre rentrée à Cultivons notre jardin pour cette 19e émission. Salut Jackie, comment vas-tu ?
Eh bien bonjour, ça va plutôt bien. L'été s'est plutôt bien passé, même si on a eu chaud, on y reviendra. Mais voilà, la forme est bonne. L'émission va être nouvelle, puisqu'en fait on a décidé de changer quelques habitudes. Déjà, on va commencer par être programmé en fait le jeudi de midi et demi à 13h30.
Ça, c'est notre succès qui a poussé les gens de la radio à nous dire non, maintenant il faut passer à midi une heure de grande écoute parce que vraiment les gens vous réclament. Alors merci, hein, merci chers auditeurs et chères auditrices.
Donc une durée d'une heure hein, au lieu d'une demi-heure précédemment. On va quand même vous rappeler là que vous pouvez réagir. On attend vraiment vos impressions. Hein. Nous laissez vos messages et vos questions par courriel, par exemple, à redac@48fm.org ou sur la page Facebook de la radio.
Oui, et puis pour écouter toutes nos émissions, sachez qu'elles sont toutes toujours disponibles sur le site internet de la radio, www.48fm.org, et vous les trouverez dans la rubrique chronique à Cultivons notre jardin, bien évidemment. Bon, et sinon, Jackie, t'as passé un bon été. Toi, t'as bien récolté à ton jardin ?
Alors, bien récolté, on y reviendra aussi, sans doute. C'est un petit peu difficile hein, dans certains jardins, par exemple, pour les groseilles ou autres qui ont brûlé avant de pouvoir être récoltés hein, avec ces périodes de canicule. Les fruits, ça n'a pas été terrible parce qu'on a eu un printemps quand même un petit peu particulier avec quelques gelées tardives. C'est jamais bon pour les arbres fruitiers.
Ouais.
Mais ne nous plaignons pas parce que de toute façon, on est dans un nouveau cycle, au début d'un cycle, et il va plutôt falloir s'adapter que de râler sans cesse après le changement de temps.
Mais comment s'adapter à la grêle ? C'est ce que nous allons voir.
Voilà, il y a des régions déjà où c'est fait. Hein. Le problème, après, c'est les coûts. Il y a des régions où on envoie des coups de canon pour éviter les nuages de grêle. Et ça fonctionne sur certains vignobles.
Non, on fait la guerre au ciel.
Voilà, la guerre au ciel. C'est mieux quand même de tirer sur les nuages de grêle, je trouve.
Oui.
Voilà. On a décidé de prendre un peu comme thème principal de cette émission, justement, le bilan de l'été au jardin. Alors, on va essayer de revenir sur chaque point un petit peu qui a été problématique ou qui a bien marché. On peut commencer par parler de la météo, avec donc, en fait, un été qui a quand même été pluvieux au début, mais ensuite très sec et surtout très chaud. Ça veut dire qu'il va falloir, à cause de ce changement climatique, eh bien, adapter les pratiques. Il va bien falloir pailler de plus en plus, voir des végétaux de mieux en mieux adaptés à ce climat. Et puis, voilà, tu parlais de la grêle tout à l'heure. Il y a eu un épisode quand même très douloureux pour beaucoup de personnes hein, qui ont souffert de la grêle comme ça. On avait par exemple sur Goudard, dans cette région-là, il y a d'un seul coup les frênes ou autres qui poussent au bord de la route n'avaient plus de feuilles. Et plus grave encore, certaines personnes qui faisaient justement produisaient des légumes pour comme métier, eh bien oui. ça a été difficile. Hein. Je crois que oui. Tu as une amie qui a comme ça bien souffert.
Oui, oui, oui. Hélène, dont la moitié du jardin a été dévastée, qui est maraîchère au Salel, pardon. Et oui, oui, effectivement, ça peut être très compliqué, surtout quand c'est quand c'est votre gagne-pain. Ça devient très compliqué de travailler à l'extérieur aujourd'hui avec la météo. Et c'est vrai que ce qu'on a vu là cette année dans le jardin, c'était très bizarre. C'était que au début de l'été, là, quand il y a eu cette canicule, c'est justement là qu'il commençait à faire beau, où on s'est dit ça va pousser, mais non, comme il faisait tellement chaud en fait, que du coup les légumes n'ont pas poussé, ça les a bloqués, c'est ça Jackie ?
C'est tout à fait ça. Il faut bien penser que les feuilles des légumes, c'est un peu comme notre peau, hein, ils sont aussi attrapés des coups de soleil, ils ont été obligés de lutter vraiment contre cette chaleur, ça a absorbé beaucoup de sève qui aurait dû servir à faire pousser en fait, hein, simplement. Donc ça n'a pas été terrible pour certains végétaux. D'autres se sont mieux comportés au début de l'été. Les salades ont très bien poussé, par exemple.
Oui.
Voilà. Mais après ces chaleurs-là, bon, comme je le disais en entrée d'émission, il y a des petits fruits quand ça a commencé vraiment à donner les framboises, les groseilles, les fraises, alors que la production s'avérait être assez bonne, quoi. On avait plein de fruits, mais ils ont séché.
Mmh. Voilà. Alors entre ça et les gelées tardives sur les fruitiers, donc pas de petits fruits, et avec les gelées tardives, pas de gros fruits non plus. En fait, on a une année un peu sans fruits quand même dans le coin. Hein.
Oui, ça va être un peu compliqué.
Ouais.
Ceci dit, il faut. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont appelé en me demandant, mais qu'est-ce que je fais ? Il faut que j'arrose, etc. Alors mon conseil, c'est quand même toujours de se dire, c'est pas la solution. Hein. Il faut s'adapter. Je crois, même si c'est compliqué, il va falloir adapter les modes de culture. Hein. C'est là où toute l'utilité de nos émissions précédentes se fait jour. Hein. Il ne faut pas hésiter à retourner voir sur le site internet les propositions qu'on formulait. Il va falloir revenir à des végétaux peut-être un peu moins sophistiqués. Quand on parlait des légumes anciens, par exemple,
oui.
Eh ben, ils ont fait leur preuve aussi. Ils ont bien... souvent, ils étaient plus rustiques. Donc ça peut être intéressant. Garder ses graines.
Attends, tu veux dire que la tomate, ça va devenir un fruit, puisque ce n'est pas un légume, sophistiqué ?
La tomate, c'est sophistiqué si on veut le cultiver comme on le fait en Hollande ou sous des serres, etc. Mmh. C'est beaucoup moins sophistiqué si on les cultive comme dans leur région d'origine, c'est-à-dire le Mexique, hein, où c'est des plantes qui ne demandent pas spécialement d'eau, qui poussent en petits buissons épineux sur le bord des chemins. Je crois aussi qu'il va falloir garder les graines. Ça, c'est quelque chose d'important.
Oui.
En fait, on s'est rendu compte quand même au niveau scientifique que les légumes évoluent, les plantes évoluent selon l'endroit où elles se situent. Elles s'habituent à un microclimat et donc on peut se dire que si la graine issue de cette plante s'est adaptée, ça va être dans ses gènes. Et au fur et à mesure, on va, en gardant ces graines, on va avoir des plantes qui vont être de plus en plus adaptées. Alors, donc justement, au climat particulier qu'on va avoir à tel ou tel endroit, ça peut être aussi bien au vent, au sec, aux maladies aussi. Hein. On s'est rendu compte que certaines plantes arrivaient à apprendre à lutter contre des maladies. Donc, moi, je pense qu'il est très important de se dire « je vais produire mes propres graines ». Et donc ça, on reviendra dans une autre émission.
Oui, après on a aussi des semenciers locaux, mais très peu, hein, malheureusement, parce que c'est quand même un métier très contraignant. Mmh. Et oui, effectivement, conserver ses graines et les aider à s'adapter, puis faire confiance aux végétaux aussi, parce qu'effectivement, eux aussi, parfois, arrivent à s'adapter. Maintenant, on ne va pas leur demander la lune.
Hein. On ne peut pas. Là aussi, hein, comme en permaculture, il va falloir observer au maximum, et voir comment les plantes réagissent et qu'est-ce que peut-être telle ou telle variété, par exemple de courgettes, peut être plus intéressante parce que je pensais par exemple à la courgette ronde de Nice qu'on peut cultiver effectivement en Lozère, mais je suis pas du tout sûr que ce soit la meilleure production par pied. Donc ce qui veut dire que si j'ai un pied que je vais mettre autant de soins à cultiver que mes grosses courgettes, mais que ça produit le quart, eh bien, il me faudra plus de pieds, plus d'eau, plus de... Et ça voilà, ça, c'est le genre de choses qu'il va falloir adapter, regarder. Je me dis, ben non, finalement, ces autres courgettes-là, qui sont, ben oui, peut-être pas une couleur très attrayante, peut-être, etc., mais ça pousse tout seul, donc c'est adapté. On va chercher tout le temps, je crois. Il faut qu'on cherche à adapter à notre jardin.
C'est ça. Il va falloir réfléchir de plus en plus à ce qu'on met, pourquoi, comment. Hein. C'est clair.
Voilà, le paillage est un de ces moyens, mais il y en a certainement d'autres. Hein. Le paillage, moi, ça fait des années que j'insiste dessus. Continuons, ça, par contre, c'est quelque chose de très, très, très important, je crois.
Ça fonctionne de toute façon.
Voilà, et un peu pour tous les végétaux. Même la salade, hein. Si on paille la salade, ça marche aussi. Il y a moins d'évaporation, donc l'eau est précieuse.
Paillons. Voilà. Allez, une petite pause musicale, Jackie, pour te laisser le temps de respirer un peu. Juste avant de reprendre, on va parler un petit peu des arbres fruitiers et nous vous proposons Moriarty avec Jimmy, une petite balade sympa. À tout de suite.
Jimmy, won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. Now there's Buffalo Jim. Buffalo Jim, there's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette, and there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose, our Rosalie to roam with the Buffalo.
Voilà, nous revoici avec Jackie. Et donc, on disait que cette année, malheureusement, nous n'aurions pas beaucoup de fruits à manger par ici en Lozère. L'été dernier, c'était des prunes, tu te rappelles, Jackie, il y en avait, mais alors à fond. Des prunes partout, ça arrivait par cagette de tous les côtés. Ben, cette année, il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas beaucoup. Quand il y en a, elles sont toutes petites. Ouais. Souvent, là, les pruniers ont été un petit peu envahis de pucerons, de divers petites bestioles. Et on se rend compte que ben, les prunes, cette année, elles sont beaucoup plus petites. C'est pas obligatoirement un très mauvais signe, parce qu'on peut se dire aussi que comme elles sont plus petites, le goût va être concentré.
Ouais.
Par contre, C'est pas intéressant au niveau de la production, au niveau des producteurs. Nous, par ici, voilà, c'est un résultat qu'on a. Il y a des épiphénomènes. Hein. À tel endroit, il va y avoir des pommes. À tel autre endroit, il va y avoir bien des poires.
Oui.
Mais en règle générale, c'est vrai que ça n'a pas été terrible cette année. On a pu le remarquer. Une autre conséquence aussi de la sécheresse, c'est que très rapidement, on a eu des frelons, des guêpes ou autres qui sont venus commencer à manger les fruits avant qu'ils soient mûrs, simplement pour avoir du liquide. Les bêtes ont beaucoup souffert. Hein.
Ouais.
Les insectes sont des bêtes comme les autres. Elles souffrent aussi beaucoup de. Ils souffrent aussi, pardon, beaucoup de la sécheresse. Et donc c'est souvent pour ça qu'ils commencent à attaquer les fruits avant qu'ils soient mûrs, puisque normalement ils attendent plutôt que ce soit très sucré pour se régaler.
Voilà. Ouais, et puisqu'on est dans le bilan de l'été, ça me fait penser que oui, effectivement, les insectes aussi ont eu soif. Mais moi, c'est la première fois que je vois les grands arbres avoir soif comme ça. La canicule,
oui.
C'était impressionnant. J'ai même vu une série de tilleuls qui devaient avoir une bonne trentaine d'années. Il y en avait 6 ou 7. Et bien, au milieu, il y en avait un tout sec.
Oui, il y a des arbres qui ont séché. Alors, là-dessus, sur un arbre qu'on voit mourir, il faut se dire que ça peut se passer en 4-5 ans. Et comme effectivement, ça fait 4 ou 5 ans qu'on a des étés, enfin, voire plus, hein, qu'on a des périodes de toute façon moins humides, petit à petit, les arbres meurent comme ça. Donc je vais revenir un petit peu sur mes fruitiers. Donc il y a eu les gelées printanières qui ont été difficiles. Il y a aussi un phénomène, hein, quand on parlait l'année dernière, il y avait beaucoup de prunes, cette année il y en a moins. Sur beaucoup d'arbres fruitiers, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'alternance, c'est-à-dire que pour se préserver, un arbre fruitier ne va pas donner ses fruits tous les ans de la même manière.
Non.
Et souvent on se rend compte qu'il y a une année sur deux qui est meilleure. Ça peut être combattu, ça, avec la taille, mais là, à ce moment-là, on se retrouve dans des vergers de production, etc. C'est un autre domaine, en fait, où on ne va pas beaucoup toucher. Hein. Pour nous, dans nos jardins, il faut accepter aussi qu'il y ait donc ce qu'on appelle une alternance. Ça veut dire une année avec plus de fruits, une année avec moins de fruits.
Ben voilà.
Voilà. On se rend compte aussi que les variétés locales, hein, au niveau des variétés fruitières, les variétés locales ont beaucoup moins souffert. Ce sont des variétés qui sont adaptées. C'est vrai que, par exemple, les Granny Smith ou les Golden ou quelque chose ou quelques variétés comme ça ont beaucoup moins bien réagi à la sécheresse. On a des toutes petites pommes qui ont même été vite déformées. Donc là aussi, on en revient aux variétés anciennes. Comme on l'a dit tout à l'heure pour les légumes, et bien pour les arbres fruitiers, c'est important aussi.
Oui, mais les variétés anciennes, là je te suis, Jackie, il n'y a pas de souci, sauf que là aujourd'hui on a quand même affaire à un dérèglement climatique et du coup on n'est plus sur les mêmes conditions. Donc même en partant de graines qui sont censées être adaptées localement, il va encore falloir qu'elles s'adaptent.
Il faut toujours que ça s'adapte. Ce qu'il y a, c'est que les variétés nationales, par exemple, qui vont être développées par l'INRA ou autres, sont mises dans des conditions de culture favorables. Hein, un petit
oui.
peu comme nous, on va faire des végétaux sous serre pour qu'il n'y ait pas de d'inconvénients climatiques, si on veut.
Mmh.
Et donc, par contre, les variétés locales qui ont été élevées sur place, elles vont toujours avoir à peu près la même apparence, mais par contre, comme je le disais pour les légumes, et bien, au fur et à mesure, ces variétés vont évoluer avec le temps dans ce climat, et en fait on va être beaucoup plus proche de ce qu'il faut pour nos terrains ici, quoi.
D'un coup, ça me fait penser à la greffe. Est-ce que c'est pas un remède intéressant en termes d'adaptation au changement climatique?
Ben la greffe, de toute façon, on va la pratiquer quand on a un arbre avec, on a acheté ça avec effectivement des variétés dont on avait bien entendu parler et tout. Rien ne nous empêche de regreffer par-dessus des variétés locales. Hein.
Voilà,
même sur un arbre qui est déjà un petit peu grand, au lieu de greffer sur le tronc, on va greffer sur les branches et on va pouvoir effectivement mettre des. Mais alors le problème qu'on aura dans ce cas-là, c'est que quand on a acheté un arbre de variété nationale comme ça, on n'est pas sûr du porte-greffe. Et le porte-greffe, lui, peut être un porte-greffe à fort développement qui a été élevé dans des conditions idéales du côté des plaines de Montauban ou autre. Mmh. Et là, effectivement, ça va être encore plus difficile de maintenir nos arbres. Moi, je continue à dire qu'il faut semer des noyaux, des pépins, et en fait avoir des jeunes plants sur lesquels on va greffer. Et alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est beaucoup plus rapide que l'impression qu'on peut avoir. Et moi, sur des arbres comme ça, en 4 ans, je peux déjà commencer à avoir quelques fruits à y goûter.
Ça me fait sourire parce que c'est cette recherche de simplicité et de rapidité qui, justement, a conduit les gens à des pratiques qui, aujourd'hui, ne sont pas très... pas très poussé, on va dire, en jardinage. Et ben du coup, le dérèglement climatique, il va obliger aussi les jardiniers, les jardinières à s'adapter en se creusant un peu plus la tête. Hein.
J'espère ouais. que ça va être ça et que ça va pas être un abandon pur et simple des pratiques de jardinage, parce que il n'empêche que l'intérêt, c'est quand même de produire ses propres légumes, ses propres fruits quand on peut, parce que oui. Là on va être sûr de ce qu'on mange.
Oui, puis là je dirais que ça sera de plus en plus important.
Oui. Ouais. Oui, mais bon, est-ce que ça va être suffisant pour motiver?
Toujours la même question. Espérons.
Cultivons notre jardin.
Alors maintenant, on va toujours dans le cadre de nos nouvelles émissions. On a intitulé une partie qui est la chronique de Nat. Donc, en gros, Nat, elle sort un micro régulièrement pour recueillir l'avis des gens, les locaux, de l'étape.
Oui, alors voilà, effectivement, j'aime bien recueillir un petit peu l'avis des gens. J'aime bien me promener aussi avec un micro, ça c'est rigolo. Non, voilà, l'idée c'est d'avoir des intervenants un petit peu extérieurs, d'avoir d'autres avis un peu extérieurs. Et là, on est allé faire un petit tour avec Léa quand même, hein, notre petite journaliste à 48FM qui m'a gentiment accompagnée. On est allé faire un petit tour à la livraison, la dernière livraison de la map du Gévaudan. Donc la MAP du Gévaudan, c'est quoi ça? Alors une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et celle du Gévaudan, Amande, on a rajouté un P pour une agriculture paysanne de proximité. Voilà. Donc l'idée, c'est un groupement de producteurs et en face, un groupement de consomme acteurs. Les gens précommandent par Internet, ce qui permet notamment aux deux maraîchères, Séverine et Hélène, de prévoir leur culture. Sauf quand, malheureusement, il y a des coups de grêle imprévus, là, ça devient très compliqué pour elles. Mais bon, elles ont réussi tant bien que mal à se dépatouiller cette saison. Et voilà, et là, eh bien, aujourd'hui, on a Séverine Van de Velde, qui est donc maraîchère au Villaret de Balsièges, qui va nous parler de ses pratiques culturales.
Séverine Van de Velde, donc moi, c'est le jardin du Villaret à Balsièges. Et donc, je suis avec Hélène Virbert, on fait toutes les deux la MAP. Hélène est installée au Salel de Chanac. Donc on produit des légumes, on essaye d'avoir une gamme assez large puisqu'on vend essentiellement sous forme de panier. Donc c'est important qu'il y ait des légumes diversifiés, donc à la MAP du Gévaudan. Donc on propose des légumes des saisons et c'est ça qui est bien avec le concept de la MAP, c'est qu'on vend les légumes sous forme de panier. Donc c'est nous qui composons les paniers avec les légumes donc de saison qui poussent au jardin. Nous, ça nous procure une sécurité puisque les légumes qu'on récolte et qu'on amène sont précommandés. Et puis ensuite, le fait justement que ce soit des paniers composés avec les légumes de saison, ça nous permet aussi d'avoir une diversité au jardin et donc de pouvoir assurer des rotations, voilà, d'avoir différentes familles de légumes, qui fait que le jardin se porte mieux quand il y a une plus grande diversité.
Donc Séverine nous a parlé des paniers qu'elle prépare, hein, avec des légumes de saison. C'est tout à fait varié. Ça permet d'avoir une grande diversité au jardin. Ce qui est important pour des producteurs comme ça, c'est de faire des rotations de culture, parce qu'en fait, un endroit où on va avoir produit, par exemple, la salade en début de saison, et bien rapidement après, il va falloir mettre un autre légume pour essayer de produire pour la fin de saison. Donc il y a des choses comme ça qui se font. Hein. L'exemple le plus connu sûrement, c'est la mâche hein, qu'on va semer à contre-saison. On va semer ça après le 15 août. Et voilà, sur une parcelle où il y aura déjà pu avoir un autre légume. En général, on va, comme c'est un légume feuille, la mâche, eh ben, on va mettre sur un carré où il y avait eu des légumes racines, par exemple, puisque chaque famille de légumes va prélever des oligo-éléments différents dans le sol. Et donc, voilà, tout ça, ça va se compléter. Et c'est tout l'art du maraîcher que d'arriver à faire ça de bonne manière. Donc, effectivement, cette année, il y a eu des problèmes de grêle, mais voilà, la solidarité, c'est aussi de continuer à acheter les produits et à faire confiance à ces gens qui ont des difficultés.
Oui, c'est pas simple, effectivement. Et puis, à l'avenir, plus on aura de gens qui seront à même de produire là, tout autour de chez nous et pas trop loin, et mieux ce sera. Et voici venu l'heure de l'agenda des activités, puisque la rentrée approche.
Donc, l'association Jardin Nature 48 organise un atelier, alors un peu particulier, un potager en altitude. Donc, ça se déroulera le samedi 21 septembre à partir de 14h30 au Blémar, chez Guillaume Breteau et Bernadette Guilbeault. À savoir que ces gens ont un potager à 1200 mètres d'altitude. Et donc, ce sera une occasion de pouvoir se dire, oui, même à cette altitude-là, on peut faire. Alors, donc, voir un petit peu les pratiques différentes et leur expérience.
Et Guillaume Breteau, il a un potager en altitude parce qu'il peut mieux y voir les étoiles, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Toujours la tête plus près des étoiles.
On est bien d'accord. Alors, le même jour, alors attention, très grand événement, Jackie, désolée de te faire de l'ombre. Sûrement, le samedi 21 septembre, c'est la fête des possibles à l'espace Wunsiedel, face à la zone Hyper-Ula. C'est organisé par le Réel 48, le réseau d'éducation à l'environnement Lozère. Et c'est une manifestation qui s'inscrit dans un cadre national. Hein. Pendant toute la semaine, il y a des fêtes des possibles un petit peu partout. C'est des choses qui doivent se créer comme ça, un peu spontanément sur une semaine nationale. Et l'idée, c'est de faire, c'est de montrer un petit peu aux gens tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui dans notre quotidien, dans notre consommation, en étant le moins nuisant possible pour notre environnement, en fait. Et là, l'idée de cette fête des possibles du samedi 21 septembre à Mende, donc c'est de faire un maximum de choses aux gens. Donc en fait, on l'a conçu, il y a plein de partenaires sur cet événement et plein de bénévoles. Et l'idée, c'est de leur montrer comment faire. Alors, je ne sais pas moi, comment faire son produit vaisselle, comment faire ses produits cosmétiques, comment faire un sac vite fait en couture. Voilà, vraiment, l'idée, c'est de faire pratiquer aux gens pour qu'ensuite, ils reviennent avec des fonctionnements qui puissent appliquer, on va dire, directement dans leur quotidien. Voilà, l'idée, c'est ça. Bien évidemment, tout autour de ça, il y a tout un tas de gens qui vont vous parler de l'eau, des cours d'eau, des arbres, de plein de choses qui concernent l'environnement. Voilà, donc il y aura foison, il y aura...
Oui, par exemple, plein Jardin Nature 48, je rebondis aussi là-dessus, oui. Parce que non seulement ils seront chez Guillaume Breteau, mais ils vont contribuer en participant au nettoyage du Lot, des rives du Lot à cet endroit-là.
Voilà.
Et voilà, le fait d'avoir des bénévoles qui aident un petit peu, qui se sentent citoyens, ça va tout à fait dans le cadre de cette fête.
Exactement. Et en même temps, et en parallèle, en fait, de cette fête des possibles, c'est la World Cleanup Day. Donc, c'est la journée mondiale de ramassage des déchets. Et donc, ça se déroule en parallèle de la fête des possibles, en fait. Hein, tout va être mené de concert. Donc, voilà, notez bien la date sur votre agenda. Le samedi 21 septembre, de 10h à 17h environ, à Mende, la fête des possibles, toute la journée. Venez discuter, venez faire des ateliers et ce sera sympa.
Alors, Jardin Nature 48 organise un après-midi construction de nichoirs à mésanges le samedi 28 septembre à Mende à 14h30.
Alors, toujours Jardin Nature 48 qui sera également à la fête de la noix le dimanche 13 octobre, toute la journée à Chanac. C'est la fête de la noix de coco?
Non, il faut savoir que la vallée de Chanac était très riche en noyers,
oui.
Historiquement, et donc c'est un peu le foyer rural ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est ça, qui organise justement une fête de la noix, puisque c'était Chanac, la cité de la noix.
C'est vrai, mais c'est nouveau cette fête, non?
Oui. Oui, ah. Oui, ils essaieront de pérenniser cette fête. Une autre fête, La fête des vergers. Ah, là, ça va être la deuxième édition. C'est le foyer rural Tarnon-Mimente qui l'organise à Vébron, le 27 octobre. Ça a lieu toute la journée. Il y aura de nombreux ateliers, conférences, projections de films, exposition de fruits, de la détermination fruitière aussi. Vous pourrez amener des fruits pour essayer de savoir de quelle variété il s'agit. Il y aura une table de troc, il y aura des stands associatifs. Voilà, donc ça se veut une grande fête des vergers toute la journée, 27 octobre, Vébron.
Et on pourra y trouver des pépins et des noyaux pour planter nos futurs arbres, Jackie ?
Eh bien, comme on trouvera des fruits qui seront des fruits bio, non traités, etc., ça pourra effectivement servir. J'y serai et je pourrai même vous dire comment faire pour les semer de la meilleure façon dans votre jardin.
Super, Jackie en chair et en os, ça faisait longtemps. Bon, ben, vous avez vu, l'été est fini, mais les fêtes ne sont pas finies. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va continuer de s'amuser un peu pendant l'automne. Voilà.
Et quand on parle de fête, on parle de Manu Chao.
Absolument, puisqu'on vous laisse avec la petite chanson de fin d'émission. Alors, c'est Manu Chao qui nous chante Denia. Denia, qu'est-ce que ça veut dire, Jackie ?
Alors, ça, j'ai aucune idée.
Eh ben voilà, bravo. Ça veut dire le monde.
Ah, tu vois.
Voilà, le monde,
voilà.
La terre, notre monde.
Moi aussi, j'en apprends en venant ici.
Yes. Allez, on vous dit à bientôt et on vous laisse avec Manu Chao. Denia, ciao.
Au revoir à tous.
الجزائر نيا تسكنها الشر نيا تسكنها الليل
Show. Okay.